Ah, bonjour Monsieur Latuile.
Bonjour.
aujourd'hui, on va vous poser quelques questions sur une œuvre Guernica vis-à-vis de sa portée et dans l'histoire et de ce qu'elle représente pour vous.
Donc, voici la première question. Que pensez-vous de ce tableau? Qu'est-ce qu'il représente pour vous?
Alors, comme on a eu le temps d'en parler un petit peu, hein, c'est une œuvre immense, donc difficile de faire au format de la web radio. Je vais essayer de faire court quand même. Donc la question, qu'est-ce que j'en pense et qu'est-ce que représente cette œuvre? Alors, ce que je peux dire, c'est que j'ai du mal à penser des choses personnelles de cette œuvre parce que je ne l'ai toujours pas vue en vrai. Et pour moi, en tant que plasticien, c'est très très important de pouvoir sentir une œuvre et pas juste une image dans des livres. Après, la réflexion qu'elle m'inspire, c'est que c'est une œuvre qui a, je ne vais pas compter le nombre d'années, mais enfin, qui a passé bien des générations, pas loin de 90 ans. Bientôt, et qui nous interpelle encore, qui fait que vous, qui êtes né après les années 2000, vous m'interrogez sur cette œuvre-là, et elle vous interroge, ça c'est un tour de force phénoménal. Et avec un aspect, on aura peut-être l'occasion d'en reparler quand on parlera du contenu de l'œuvre, Picasso a fait cette œuvre-là en répondant à une commande pour l'exposition universelle, c'est le gouvernement républicain espagnol qui lui a demandé de faire cette œuvre-là, suite au massacre qui a eu lieu à Guernica sous les bombardements. Pour réaliser cette œuvre-là en quelques semaines, il ne l'a pas sortie de nulle part. Il a puisé dans son œuvre d'artiste personnel, dans ce qu'il a fait dans le cubisme, dans des œuvres qu'il a faites au début des années 30, liées à la corrida notamment, d'autres figures, le Minotaure, enfin plein de figures qui sont très présentes dans son œuvre. Donc il puise dans son bestiaire, dans son imaginaire personnel, et en même temps il arrive à en faire une œuvre qui touche tout le monde, qui n'est pas juste son histoire à lui, qui fait que n'importe qui, en ayant juste le titre, et le lien aux faits historiques, est capable d'être saisi par cette œuvre-là et puis d'essayer de la comprendre. Pour moi, là, elle représente un tour de force qui est quand même énorme de la part d'un artiste.
Pouvez-vous nous décrire un personnage de Guernica?
Alors, un personnage de Guernica... Alors, je dis qu'il y a une porte qui s'est ouverte, là, c'est pour ça qu'il y a un moment de suspens. c'était pas un personnage de Guernica qui arrivait. Je vais juste cibler celui de droite, puisque je l'évoque en classe parfois avec les élèves. Ce personnage qui est à droite, qui lève les mains vers le ciel, même s'il y a un déplacement, il peut faire penser à l'œuvre de Goya dans laquelle on a ce personnage à chemise blanche qui lève les mains au ciel face aux soldats napoléoniens qui tuent des innocents. Et donc c'est vraiment la figure de l'innocence tournée vers le ciel pour dire voilà, je suis un innocent sacrifié. Ça permet de dire tout de suite aussi, quand on regarde le tableau, qu'il s'agit d'un bombardement, il n'y a aucun avion qui est représenté. Et la force de Picasso aussi dans cette œuvre-là, c'est de ne pas représenter des objets qui sont vraiment liés à l'histoire directe. Lui, il s'attaque à l'histoire directe, mais finalement, c'est un tableau où on a très peu d'éléments des années 30. On ne voit pas de voiture des années 30, on ne voit pas d'armes des années 30, on ne voit pas les avions. Et ça montre encore plus la violence face au destin. Enfin, c'est comme si le ciel tombait sur ces personnages-là. Et ça montre encore plus la violence à laquelle sont exposées les populations civiles quand la guerre leur tombe dessus. Parce qu'on n'a pas, tous les éléments de contexte. Après, il y aurait beaucoup d'autres choses qu'on pourrait pointer, mais ce qui est fort, je pense, dans chaque personnage, c'est que là aussi, c'est le vocabulaire de Picasso, lié au cubisme, entre autres, et puis son jeu formel des années 30. Mais n'importe qui, on n'est pas obligé de connaître l'œuvre de Picasso pour pouvoir comprendre ou en tout cas ressentir la force des personnages et cette douleur terrible, l'étirement des corps, les gueules ouvertes avec des langues qui sont comme des dagues pointues, comme des poignards, qui montrent que vraiment c'est des corps perforés par la douleur. L'idée du cri aussi, on le sent très très fort, c'est une œuvre, toute peinture est silencieuse, mais on sent le cri, on l'entend. Et ça amène à s'intéresser à chaque personnage, ou le personnage qui ne peut plus crier, celui qui est au sol, comme un soldat justement en morceaux, et on sent que là pour le coup il n'y a plus de souffle justement, le dernier souffle est passé.
Est-ce que vous pensez qu'un tableau peut parler autant aux gens qu'un article de journal pour décrire les horreurs d'un événement?
Alors vous voyez, je pense que on va étendre peut-être pas juste un tableau mais parler d'images et dire que, et on est dans une société et une civilisation de l'image, l'image est extrêmement forte parce qu'elle véhicule beaucoup de choses en très peu de temps. Je pense qu'il faut prendre le temps de lire des images, mais en un dixième de seconde, une image nous communique des choses qu'un texte ne peut pas communiquer en un dixième de temps, en un dixième de seconde. Donc ça, c'est une force de l'image. Par contre, si on prend le temps de lire, on peut s'imprégner beaucoup plus des choses. Sujet que vous traitez en histoire en troisième, par exemple la situation des gens qui ont été en camp de concentration et déportation, quand on lit des témoignages, quand on lit des ouvrages, voilà, ça s'imprègne en nous pendant pour toute la vie, une fois qu'on l'a lu. Et le texte rentre beaucoup plus en nous. Ceci dit, une image, elle nous touche beaucoup. Est-ce que ça a besoin pour autant d'être une œuvre d'art ? Ce que je vous évoquais tout à l'heure, là, quand on parlait, je suivais un petit peu sur Instagram un journaliste palestinien, Motaz Azaïza, je prononce certainement mal, qui était donc en Palestine quand la guerre a commencé cet automne. Une photo, une vidéo de lui, d'enfants qui ont l'air hagards, choqués, où on en voit un plus grand qui ne sait pas comment réconforter son petit frère, on devine dans le contexte que peut-être que les parents, eux, ne sont plus là. Ça n'a pas besoin d'être une photo d'art, ça nous bouleverse, et ça nous bouleverse totalement. Par contre, une œuvre comme Picasso, pour y revenir, alors je vais déborder un petit peu au niveau du temps, mais il faut rappeler sa dimension. Elle fait plus de 7 mètres de long. C'est immense. Et quand Picasso fait ça, c'est-à-dire qu'il essaie de donner la même dimension que ce qu'on appelait avant, dans les registres de l'Académie en France, un tableau d'histoire. Et ce sont des gens du peuple, des anonymes, comme vous et moi, qui ont subi un bombardement. Et en faisant une telle dimension, en donnant une telle dimension à l'œuvre, c'est une manière de dire, voilà, dans l'histoire il s'est passé ça, ce sont peut-être des inconnus, mais ceux qui ont commis ça, devant l'histoire, sont responsables. Et dans 60 ans, dans 70 ans, dans bientôt 90 ans, on les rendra toujours responsables d'un crime. C'est vraiment un crime qui a été fait. Et il le fait avec une telle force, et aussi parce qu'il y a de l'énigme, c'est-à-dire qu'on passe du temps, cette œuvre nous interroge, on ne comprend pas tout, même les spécialistes vont discuter des détails. Bah, cette force, cette puissance qu'a l'œuvre de nous interroger encore, de faire que 90 ans après, bientôt, on se pose encore des questions devant l'œuvre, c'est que ce n'est pas juste un message bouclé, quoi. Et ça, c'est une puissance de l'œuvre. Et ce qui fait qu'on peut la transposer dans d'autres contextes, qu'elle peut parler, elle parle de Guernica au départ, mais qu'elle a touché d'autres époques. Et comme je l'évoquais, il y a d'autres artistes qui se sont servis de cette œuvre-là. Il y a des artistes un peu plus tard, comme Equipo Chronica, ou dans d'autres contextes, des graffeurs aussi sur les murs qui ont repris des éléments de Guernica pour parler de situations qui étaient différentes, mais qui parlaient toujours de l'injustice sur les populations civiles en situation de guerre. Et ça, c'est une force énorme, hein, qui dépasse beaucoup de choses.
Connaissez-vous une œuvre qui provoque des sentiments ou une réflexion par rapport à l'histoire ?
Je vais faire un petit pas de côté, puisque j'ai évoqué l'histoire du tableau d'histoire, faire un très grand tableau avec des gens du commun. Avant le 19e siècle, ce n'était pas possible. On n'avait le droit de le faire que pour des personnages royaux, des sujets religieux, des sujets mythologiques. Et il y a un peintre très important qui s'appelle Gustave Courbet, qui était très engagé politiquement, qui a fait des tableaux d'histoire avec des gens inconnus, des gens de son village. Un tableau très connu qui s'appelle L'enterrement à Ornans. C'était la première fois, et c'était un acte politique de dire, voilà, des gens de mon village ont le droit d'avoir un tableau d'aussi grande dimension que des rois, que des personnages mythologiques, parce qu'ils ont autant de place dans le monde que quelqu'un qui est bien né, comme on disait à l'époque. Eh bien, je pense à un tableau de lui qui s'appelle Les casseurs de pierre, et ça fait un lien avec notre histoire, puisque c'est un tableau qui a disparu sous les bombardements. On n'a plus de traces de ce tableau-là. On n'a plus que des photographies. Mais il a disparu, je crois, vers 1944-1945, sous les bombardements. Et qu'est-ce qu'on voit dans ce tableau ? C'est une scène très simple. On voit deux personnages presque de dos, enfin l'un est quasiment de dos et l'autre de profil. Un vieux, un jeune, ils sont en train de casser des pierres en bord de route, pour faire des routes. Et qu'est-ce que nous dit Courbet là ? Il dit, ben voilà, si nous sommes dans une vraie démocratie, est-ce que c'est normal que des jeunes gens, parce que le jeune, il est adolescent, il est à peine plus âgé que vous, et ben on sait qu'il va faire le même métier que son père, casseur de pierres. Or, qu'est-ce que voulait Courbet ? C'est que grâce à la démocratie, grâce à l'école, on puisse donner un destin aux gens qui puissent avoir une liberté pour créer leur destin et pas rester dans le même sillon et surtout dans des métiers aussi durs que ceux des casseurs de pierres. Et ben, ça, c'est un tableau qui me fait encore réfléchir aujourd'hui et qui me fait encore réfléchir en tant que professeur par rapport à la mission de l'école dans notre monde et dans le contexte pas toujours joyeux dans lequel on vit. L'actualité nous renvoie des choses qui font penser à Guernica tous les jours. Mais dans ce contexte-là, ben, faisons en sorte que chacun puisse tracer sa route et pas rester un casseur de pierre. Voilà.
On vous remercie beaucoup. C'était extrêmement intéressant.
J'ai beaucoup parlé. Il y aura certainement du montage, mais c'était l'occasion aussi de partager des connaissances avec vous et c'est très agréable. Merci beaucoup.
Merci beaucoup.